RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal Afrique, bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Ne parlez plus de général Oligui Nguema au Gabon. Le président de la transition s'est mis officiellement en disponibilité de l'armée après avoir déposé son dossier de candidature en vue de la présidentielle d'avril. 22 autres prétendants ont également déposé un dossier, mais incomplet pour certains, vous l'entendrez. L'insécurité inquiétante à Bukavu, ensuite en RDC, la capitale du Sud Kivu, gangrénée par la criminalité depuis que le M23 a pris le contrôle de la ville. Au Tchad, garde à vue prolongée jusqu'à demain lundi pour notre correspondant Olivier Monodji. Mais on ne sait toujours pas ce qui lui est reproché. L'Union des journalistes tchadiens dénonce une arrestation arbitraire. Au Zimbabwe, qu'est-il arrivé au journaliste et militant Itai Dzamara? Cela fait 10 ans aujourd'hui qu'il a été enlevé et depuis, ses proches restent sans nouvelles. Et puis, la foi qui donne des ailes en ce mois saint de Ramadan pour les musulmans. La foi qui permet notamment d'arrêter de fumer. Ce sera notre dossier du jour en Tunisie. Il n'y aura donc pas plus de 23 candidats pour la présidentielle prévue le 12 avril prochain au Gabon. C'est en effet le nombre de dossiers qui ont été présentés et le délai de dépôt des candidatures se refermait officiellement hier. Mais il y aura peut-être moins de 23 candidats en revanche, car certains ont annoncé notamment n'avoir pas pu réunir la caution de 30 millions de francs CFA exigée aux prétendants. Cela représente environ 45 000 euros. Manifestement, le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, lui, n'a pas eu ce problème, Yves-Laurent Ngoma. Et il a d'ailleurs mis en suspens ses fonctions militaires dans l'optique de cette élection.
Après avoir déposé son dossier, le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, a annoncé sa mise en disponibilité de l'armée.
C'est dire qu'aujourd'hui, je suis apte à faire de la politique et même occuper la fonction suprême.
L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Binzé a déposé son dossier mais n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, le syndicaliste Jean-Rémy Yama a accusé les militaires qui l'ont sorti de prison après la chute d'Ali Bongo de préparer des fraudes.
Ce qui est sûr, c'est que des mécanismes sont mis en place pour tricher, mais d'autres mécanismes aussi seront mis en place pour découdre ce qu'ils ont cousu.
Au moins 4 femmes ont fait acte de candidature. Parmi elles, Zenaba Nyinga Chaning, femme d'affaires.
J'ai une conviction. Je pense que ce Gabon mérite, ce pays mérite mieux. En tant que présidente de la République, je ferai de mon mieux pour que le Gabon se développe mieux. Voilà.
Selon le code électoral, les candidats doivent être âgés de 35 à 70 ans. Un critère que conteste Pierre Claver Maganga Moussavou, 72 ans.
Écarter un candidat qui est expérimenté, bien formé, pour des critères d'âge, c'est tout simplement vil. Et celui qui accepte cela, accepte de mourir. Moi, je n'accepte pas de mourir.
Plusieurs postulants sollicitent un délai supplémentaire pour compléter le dossier, avec notamment la quittance du Trésor, prouvant le dépôt de la caution de 30 millions de francs CFA. Yves-Laurent Ngoma, Libreville, RFI.
Et direction à présent sur RFI, Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu dans l'est de la RDC, qui vit sous le joug du M23 depuis quelques 3 semaines maintenant et où les témoignages font état d'une insécurité incessante. Surtout la nuit, les attaques de bandits, les attaques criminelles se multiplient jusqu'à l'intérieur des habitations et les morts également. Cette situation interpelle la société civile et les mouvements citoyens, à l'image du militant Amos Bissimwa qui témoigne ce matin.
Il ne se passe plus un jour sans qu'on soit au-delà de 12 morts dans la ville de Bukavu et ses périphéries. Au moins 12 morts. La semaine écoulée, on est allé au-delà de 14 par jour. Des gens qui sont en train d'être tués, soit par justice populaire, les gens se rendent justice. Mais aussi des règlements de comptes. À part ceux qui sont brûlés par justice populaire, beaucoup d'autres sont tués par balles dans la tête. L'insécurité causée par des gens qui ont évadé dans différentes prisons de la ville comme dans nos territoires. On peut les estimer à plus de 5000 ceux qui ont évadé, profitant aujourd'hui des armes qui ont été abandonnées dans la rue par nos phares de sécurité. Et ce sont ces armes-là qu'ils utilisent pour insécuriser la population et qui ont les paisibles citoyens. La recommandation est qu'on voudrait que la justice reprenne ses activités pour voir si du moins on peut juguler cette situation. Mais aussi, la police qui avait été envoyée à Goma pour une formation idéologique devait revenir dans l'extrême urgence pour assumer l'ordre public.
Amos Bissimwa de la société civile de RDC, l'est de la RDC où les combats se poursuivent dans le même temps entre l'AFC-M23 et son soutien rwandais d'un côté et de l'autre. L'armée congolaise appuyée quant à elle par les milices Wazalendo, des milices d'ailleurs accusées d'une incursion dans un village du territoire de Masisi au nord Kivu, le village de Tambi. Alexis Guilleux, les miliciens y auraient tué une quarantaine de civils au moins dans la nuit de mercredi à jeudi.
C'est vers 22h mercredi que des combattants Nyatura Bazungu, des miliciens Wazalendo, ont attaqué le village de Tambi et tiré sur des villageois, selon des sources locales. Des sources sanitaires de la zone évoquent 43 civils tués. Ce chiffre pourrait même être plus élevé, déclare une source onusienne à RFI. Selon elle, des victimes auraient été enfermées dans une maison incendiée. Le matin, nous sommes allés voir et nous avons vu des corps calcinés. On avait du mal à les identifier, témoigne un rescapé sous couvert d'anonymat. La plupart des victimes, des hommes, des femmes, des enfants, étaient des déplacés récemment revenus dans cette zone occupée par le M23 avec qui les miliciens les auraient accusés de collaborer. De sources locales, les miliciens ont ensuite regagné leur position de Bulindi et Boutenderi à une dizaine de kilomètres de là. Cette attaque intervient alors que la SADC et l'EAC ont appelé à un cessez-le-feu. Depuis deux jours, de violents combats sont signalés autour de Masisi entre l'AFC M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les milices Wazalendo.
Alexis Guilleux, une nouvelle alerte sur le Soudan du Sud, entrée dans une régression alarmante qui pourrait anéantir des années de progrès vers la paix. Ce sont les mots de Yasmine Souka, présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans le pays. Elle s'inquiète du regain des combats entre l'armée du président Salva Kiir et les hommes du vice-président Riek Machar. Yasmine Souka appelle donc au retour urgent au processus de paix découlant de l'accord conclu en 2018. Le sort à présent de notre correspondant au Tchad, Olivier Monodji, dont la garde à vue a été prolongée jusqu'à lundi matin. Elle dure depuis mercredi pour notre collègue détenu dans une cellule de la police judiciaire de N'Djamena, sans que les motifs de son arrestation aient été notifiés. Il a été auditionné hier pendant 4 heures par 3 officiers de la PJ. Olivier Monodji doit désormais être déféré devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de N'Djamena lundi matin. Mais son avocat, Maître Alata Amos, attend toujours de connaître les raisons de cette interpellation. Je vous propose de l'écouter.
Il n'y a que le procureur de la République seul qui peut nous expliquer, parce que là, il a des conseils. Nous sommes ses conseils. Il représente suffisamment de garanties de représentation, mais malheureusement, on le garde quand même dans les locaux de la police judiciaire. Ni la police judiciaire n'a été capable de nous dire, nous lui reprochons telle infraction. Il n'y a que le procureur de la République qui peut nous dire pourquoi il l'a arrêté. Et nous l'attendons de pied ferme le lundi pour savoir qu'est-ce qu'il reproche à notre client. C'est aberrant de savoir que dans ce siècle-là, on arrête encore des journalistes. Et c'est vraiment d'un autre âge. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est impératif qu'on le relâche purement et simplement.
La réaction de Maître Alata Amos, un dossier Olivier Monodji qui suscite en tout cas une vive inquiétude de l'Union des journalistes tchadiens. Elle parle d'une arrestation arbitraire et évoque une grave atteinte à la liberté de la presse ainsi qu'aux garanties judiciaires qui sont prévues par la constitution du Tchad. L'UJT demande la libération immédiate de notre confrère. On en vient maintenant au mystère Itai Dzamara au Zimbabwe. Voilà 10 ans que ce journaliste et militant a été enlevé. Depuis, ses proches ignorent toujours ce qui lui est arrivé exactement. Ils savent simplement que le 9 mars 2015, Itai Dzamara, alors âgé de 35 ans, était emmené par 5 individus à la sortie d'un salon de barbier en banlieue de la capitale Harare. Après cela, silence radio, encore aujourd'hui Claire Bargelès.
Avant son enlèvement, Itai Dzamara avait déjà été intimidé, attaqué et arrêté pour son militantisme. Il manifestait notamment pour l'amélioration des conditions économiques et la démission du président de l'époque, Robert Mugabe. Depuis sa disparition forcée, aucune avancée n'a eu lieu sur le plan de la justice, même sous le gouvernement d'Emerson Mnangagwa, selon Tigere Chaguta, représentant d'Amnesty International.
Le gouvernement zimbabwéen a laissé tomber la famille d'Itai Dzamara. La haute cour du Zimbabwe avait ordonné à la police et aux services de sécurité de l'État de chercher Itai et de remettre un rapport sur leurs progrès toutes les 2 semaines. Mais jusqu'à ce jour, aucun service de sécurité n'a respecté cette décision et la police a cessé de rendre les rapports qui avaient été demandés par la Cour.
Cette absence de justice envoie un très mauvais signal pour la société, selon Dick Amaibere, directeur de l'Association zimbabwéenne pour les droits de l'homme.
Au Zimbabwe, on a déjà connu dans le passé beaucoup d'enlèvements qui n'ont jamais été élucidée. Et cela plonge les militants dans l'insécurité. Cela donne aussi un sentiment d'impunité pour les auteurs de ces crimes, à qui on envoie le message qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'ils sont au-dessus des lois.
Selon Amnesty International, sur les 2 dernières années, 10 opposants politiques ont été enlevés dans le pays, puis pour la plupart relâchés, sauf dans le cas de Tapfumanehi Masaya, dont le corps sans vie a été retrouvé en 2023 dans une ferme. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
En Afrique de l'Ouest, l'action du président ghanéen pour rapprocher son pays et la CEDEAO, la communauté économique de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, constituée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Après avoir plaidé pour ce rapprochement il y a quelques jours, John Dramani Mahama s'est rendu hier dans la capitale malienne Bamako, avant des déplacements annoncés dans les capitales des 2 autres pays dirigés par des juntes militaires. Un voyage aujourd'hui au Maroc pour le ministre français de la Justice, alors que la coopération judiciaire entre les deux pays est au beau fixe. Gérald Darmanin va rencontrer son homologue à Rabat, entente qui détonne avec la brouille entre Paris et Alger, notamment sur la question judiciaire justement. Le Ramadan qui se poursuit, l'occasion pour nombre de musulmans de se recentrer sur leur foi et pourquoi pas d'arrêter de fumer également, en Tunisie notamment, où selon l'Alliance de lutte contre le tabagisme, 48% des hommes sont fumeurs et 13 200 décès liés au tabac recensés en moyenne chaque année. Alors le sevrage imposé par le jeûne la journée donne forcément des idées pour ne pas reprendre la nuit, mais ce n'est pas toujours facile. C'est notre dossier du jour, signé Lilia Blaise.
De bon matin, Mohamed Ali, 29 ans, a du mal à ouvrir l'œil. Une semaine après le début du ramadan, ce mécanicien peine encore à se passer de sa cigarette matinale, accompagnée de café. Habituellement, il est à 1,5 paquet par jour.
C'est vrai que ce que je vais consommer le soir après le repas de rupture du jeûne, ça n'a rien à voir avec ma consommation habituelle. Je ne vais pas compenser le fait de m'être privé pendant la journée. Mais le manque reste présent, même si j'essaye chaque année d'arrêter complètement. J'arrive juste à diminuer pour le moment.
Ayman, vendeur de légumes, veut aussi arrêter, mais dit manquer de motivation.
Bon, après la rupture du jeûne, j'enchaîne 5 à 6 cigarettes, mais vu que je dois me coucher tôt à cause du travail, je ne fume pas tout au long de la soirée et lorsque je me lève, il est de nouveau temps de jeûner. Alors, corps ramadan, je peux m'enfiler jusqu'à 2 paquets de cigarettes entre la soirée et la journée.
Nizar Bahri, 55 ans et médecin, s'est lancé un défi. Fumeur depuis 30 ans, il souhaite vraiment arrêter définitivement après avoir fait une séance d'acupuncture la veille de ramadan pour se sevrer.
Au ramadan, on est obligé de ne pas fumer pendant la journée. Et donc, parfois, on se dit, si on peut arrêter 12 heures de temps, et pourquoi pas 24, et pourquoi pas 48, et pourquoi pas une semaine, et pourquoi pas un mois, et pourquoi pas définitivement.
Après plusieurs tentatives et rechutes par le passé, il est confiant cette fois. Ce dimanche marque son 10e jour, sans aucune cigarette. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Eh oui, arrêter le tabac, ce n'est pas facile en effet, hein, mais heureusement, il existe des aides proposées par la médecine. L'acupuncture peut par exemple être une solution, cette méthode issue de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce que suggère en tout cas la docteure Nadia Garbi Amara, qui exerce justement à Tunis. Mais pour elle, la volonté et la spiritualité, la foi, restent le ciment indispensable.
Ramadan, c'est une force spirituelle qui permet de ne pas manger, de ne pas fumer, de ne pas boire, tout ça. Donc ça donne vraiment une force. Je pratique l'acupuncture pour tout ce qui est addiction. Donc l'acupuncture diminue le besoin 60 à 70%. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir la veille de Ramadan, les quelques jours avant Ramadan. Ils me disent, Ramadan, c'est une occasion. Déjà, on passe toute la journée sans fumer. Donc avec un peu de volonté et avec l'acupuncture qui aide énormément, on peut s'en débarrasser complètement. C'est vraiment une occasion. Et déjà, les gens qui, quand ils font la séance d'acupuncture, ils me disent, on se sent comme Ramadan les premiers jours. C'est tout à fait l'expression que me disent la plupart des gens. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu fatigués, parce que le tabac, c'est un excitant. L'absence de tabac va laisser un peu de fatigue. Donc, de temps en temps, ils me disent, il y a une envie, ça c'est après la séance d'acupuncture, mais qui sera gérable.
Le docteur Nadia Garbi Amara pour refermer notre dossier, mais la matinale continue bien sûr sur RFI, c'est avec Marion Cazanove. We'll be right back.